à Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est en Éthiopie, première étape de sa tournée africaine. Élection couplée en Sierra Leone, 16 candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Au Niger, des étudiants ont assigné en justice les enseignants en grève à l'université de Niamey.
Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas encore de quoi persister dans cette grève-là parce que déjà, ils ont transformé cette université en un mouroir académique.
Dans la Minute Éco, on passera par la Côte d'Ivoire qui investira plus de 7 milliards pour développer ses infrastructures et les premiers résultats des 6e de finale des Coupes africaines dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. À la une, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé aujourd'hui en Éthiopie, première étape de sa tournée d'une semaine sur le continent. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson a été accueilli à son arrivée par son homologue éthiopien, Wapnet Gebeyehu. Il rencontrera demain les responsables de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a aussi atterri à Addis Abeba aujourd'hui. Toutefois, il n'y a eu aucune confirmation que les deux diplomates se sont rencontrés. Hier, à l'université George Mason, près de Washington, Rex Tillerson a déclaré que la sécurité des États-Unis et sa prospérité étaient plus que jamais liées à l'Afrique. Il a ajouté que son pays est engagé à construire une relation forte avec le continent, accusant la Chine d'encourager la dépendance dans son approche africaine. Le secrétaire d'État américain a annoncé que Washington va allouer 533 millions de dollars supplémentaires pour combattre la faim en Éthiopie, dans le bassin du lac Tchad, en Somalie et au Soudan du Sud. Sa tournée africaine va être axée sur la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix, la bonne gouvernance, le commerce et les investissements. Il se rendra aussi à Djibouti, au Kenya, en Angola, au Tchad et au Nigeria.
Les Sierra Leonais ont voté dans des élections à la fois présidentielles, législatives et communales. Pour la présidentielle, il y a 16 candidats et 2 favoris issus des partis qui dominent la vie politique du pays depuis son indépendance. Mais un outsider pourrait créer la surprise. Les précisions avec Dili Diko.
Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes après une campagne dominée par des accusations de corruption. Il y a 16 candidats pour le fauteuil présidentiel. Le président sortant Ernest Koroma, qui a fini ses 2 mandats, ne peut se représenter. Son parti a choisi comme porte-drapeau Samora Camara, 66 ans, ancien ministre des Affaires étrangères. Le principal parti d'opposition est représenté par Julius Mada Bio, ancien général qui a été brièvement au pouvoir après un putsch en 1996 et a été battu par M. Koroma en 2012. Enfin, Kande Yumkela qui se présente à la tête d'une nouvelle formation, la Grande Coalition Nationale. Ce troisième homme pourrait être le faiseur de roi lors d'un second tour très probable dans un mois. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les prochaines 48 heures et les résultats définitifs d'ici 2 semaines.
Le Burkina Faso a rendu un hommage national aux 8 militaires tués dans les attentats de Ouagadougou qui ont frappé vendredi l'état-major général des armées et l'ambassade de France. 1 millier de personnes, familles des victimes, autorités civiles et militaires et soldats étaient réunis pour la cérémonie au camp militaire général Aboubacar Sangoulé-Lamizana en périphérie de la capitale burkinabé. Au Mali, 32 organisations de défense des droits de l'homme disent non à l'impunité. Le Premier ministre malien a reçu un avant-projet de loi d'entente nationale qui devrait inspirer le gouvernement dans l'élaboration du projet de loi et conforter la réconciliation en amnistiant certains anciens rebelles. Les organisations de défense des droits de l'homme inquiètes ont mis en garde le président malien du risque de certaines de ces dispositions. Et au Niger, des étudiants ont assigné en justice les enseignants de l'université de Niamey en grève depuis 2 semaines. Ils réclament la reprise des cours. Le jugement a été mis en délibéré pour le 13 mars. À l'origine de cette grève des enseignants, l'agression d'un de leurs collègues il y a un mois. Ils protestent contre l'insécurité qui règne sur le campus. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Guinée, plusieurs milliers de femmes vêtues de blanc ont participé à une marche à Conakry pour dénoncer les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques dans le pays. Ekia Badou.
En couleur du deuil, toutes de blanc vêtues, les manifestantes ont répondu à l'appel de l'UFDG, principal parti d'opposition. Entre 5 000 et 10 000 femmes ont défilé sur 3 km du rond-point d'Andalaï Concasseur, dans la banlieue de la capitale, jusqu'au quartier de Bambeto. Elles portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Trop de morts, l'État dort encore » ou encore « Alpha rime avec crime » en référence au président Alpha Condé. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles le long du parcours. Les manifestantes ont elles-mêmes mis en place leur propre service d'ordre. Ces manifestations sont liées d'une part aux élections locales du 4 février, dont les résultats sont toujours contestés par l'UFDG de Sélou d'Alain Diallo. Parallèlement, il y a la grogne des enseignants qui perdurent et un appel à la grève générale lancé par un puissant syndicat qui avait fait de Conakry une ville morte le 26 février dernier. La répression de ces manifestations a fait au moins 12 morts.
En Libye, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a évacué plus de 1300 réfugiés du pays vers des pays tiers et espère porter le total autour de 8000 cette année. L'annonce a été faite par le représentant du HCR en Libye, Roberto Mignon. Et pour ce faire, l'agence onusienne compte sur le centre de transit à Tripoli avec une capacité d'accueil de 1000 personnes. Au Nigeria, 3 attaques de Boko Haram ont fait 10 morts depuis le début de la semaine dans le nord-est du pays. Mardi, 4 forestiers sont morts en marchant sur une mine à 90 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Ils étaient allés récupérer un véhicule abandonné la veille à la suite d'une attaque de Boko Haram qui avait fait 3 autres morts. Et 3 autres personnes ont été tuées à Gambourou, à la frontière avec le Cameroun. Au Congo-Brazzaville, 4 proches du pasteur Ntumi libérés. Le gouvernement a procédé ce mercredi à la libération de 4 ninjas dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu du 27 décembre dernier. De Brazzaville, la correspondance de Ngwelangusu.
Ces ninjas du pasteur Ntumi ont été arrêtés dans les villages et les forêts du Poule pendant le conflit armé. Ils ont ensuite passé plus de 15 mois en détention dans les commissariats de police et les genres des services de renseignement. Daniel Mbemba et Brice Batokokula ont exprimé leur gratitude, mais ne regrettent pas d'avoir suivi le pasteur Ntumi.
Très difficile d'être incarcéré, torturé moralement. C'est que, bon, je me disais que j'avais choisi mon vrai côté, pour le dire dans le CNRC, mon vrai côté. Donc pour mieux vivre dans le PCT, vraiment c'est cruel.
Non, je ne regrette pas, mais plutôt je me dis que j'ai gagné beaucoup de choses là où j'étais pendant une année dans la prison. Là où j'étais au PSP contre Rage, le commissaire Morgan. Oui, je ne regrette rien.
La libération a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur Raymond Boulou et les représentants du pasteur Ntumi, dont Jean-Gustave Ntondo et Anne-Philippe Bibi. Ce dernier a déclaré que de leur côté, il n'y avait jamais eu de détenus militaires. Pour le gouvernement, cette libération de 4 proches du pasteur Ntumi est une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'armée et les ninjas en décembre dernier. Ngwelangusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 18 travailleurs du parc de Kahuzi-Biega en mission ont été enlevés depuis 3 jours par des miliciens Maïmaï Raya Moutomboki. Selon des sources de la société civile, les ravisseurs exigent une importante somme d'argent pour libérer les otages. Au Kenya, le gouvernement a perdu la trace de 400 millions de dollars de fonds publics selon un rapport de l'auditeur général de l'année 2015-2016. Il décrit toutes sortes de gaspillages et erreurs comptables sous le gouvernement du président Uhuru Kenyatta qui avait promis pendant sa campagne de s'occuper de la corruption. Et en Éthiopie, la coalition au pouvoir se réunira à partir de dimanche pour désigner le successeur du Premier ministre. Celui-ci sera choisi parmi les 180 membres du Conseil de la coalition au pouvoir. Ali Mariam Dessalegn a annoncé sa démission en février dernier, qui a été suivie par l'instauration de l'état d'urgence sur fond de tensions ethniques et des manifestations qui ont sévèrement réprimé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, plusieurs centaines de combattants supplémentaires ont été déployés par le régime syrien dans la Ghouta orientale. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme accuse Damas de préparer l'apocalypse. Après 2 semaines de bombardements intensifs, le pouvoir syrien contrôle désormais plus de 40% de la Ghouta orientale. Plus de 800 civils ont été tués depuis le 18 février, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et par ailleurs, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a vivement critiqué une visite de 4 députés allemands d'extrême droite à Damas pour y rencontrer des proches du régime de Bachar al-Assad. Ceux qui courtisent ce régime se disqualifient d'eux-mêmes, a déclaré à la presse le porte-parole Stephen Seber à Berlin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La production de phosphate en Tunisie a repris. Des mouvements sociaux étaient à l'origine de l'arrêt des activités depuis 1 mois et demi. Des camions transportant du phosphate ont pu partir de la mine d'Om Lakhchab à Metlaoui, dans le centre-ouest, en direction d'un groupe chimique à Gabès, dans le sud. Le milliardaire américain ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé au Cap en Afrique du Sud la création d'une ONG pour dénoncer les stratégies trompeuses de l'industrie du tabac. Baptisée Stop, elle sera dotée initialement de 20 millions de dollars. Monsieur Bloomberg a dit que les mesures visant à contrôler la consommation de tabac ont sauvé près de 35 millions de vies. Mais l'industrie du tabac s'obstine à trouver de nouveaux consommateurs, en particulier les jeunes, a-t-il précisé. L'Afrique du Sud a abrité aujourd'hui la 17e conférence mondiale tabac ou santé. En réponse au président américain qui menace de taxer les importations d'acier et d'aluminium, le président du Conseil européen a déclaré que la guerre commerciale était mauvaise et facile à perdre.
Et c'est l'heure de la page sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord en Ligue des Champions, après la déroute du PSG, 2 clubs anglais en piste ce soir pour la qualification.
Finaliste la saison dernière, la Juventus Turin a concédé le match nul à l'aller face à Tottenham et se retrouve en mauvaise posture. Tandis que Manchester City entrevoit déjà les quarts de finale après sa victoire 4-0 à l'aller contre le FC Bâle. On suivra ça, le coup d'envoi de ces deux rencontres, 19h45, temps universel.
Et sur le continent africain, suite des 16e de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, les premiers résultats sont tombés. Match nul de l'Espérance de Tunis au Kenya chez Gor Mahia. Saint-Georges d'Éthiopie, match nul également à domicile contre Kampala City. Le Zanaco de Zambie battu sur son terrain 2-1 par le club du Swaziland Mbabane. Le Zesco United à nouveau battu par l'ASEC Mimosa, le club ivoirien. Victoire facile de Mazembe. 4-0 face au club de Songo, c'est un club du Mozambique. Et puis la Douana Stars qui bat Sétif 1-0, la Estogo Port qui bat 2-0 à l'Hilal du Soudan, le MFM FC du Nigeria qui domine 2-1 le MC Alger, le Primero de Agosto qui bat 1-0 Bidvest Wits de l'Afrique du Sud, le Rayon Sport du Rwanda face à Mamelodi Sundowns, le Wydad de Casablanca face au WAC, l'autre WAC, celui de Williamsville à Abidjan. Et enfin, le Difa El Djadidi face à l'AS Vita Club.
La coupe aussi se joue ce mercredi.
À suivre Port-Louis de l'île Maurice contre le Fossa Junior de Madagascar, l'AS Maniema de RDC contre l'USM Alger, l'Olympic Star du Burundi face à Hilal El Obied du Soudan, le Welashta Dija de l'Éthiopie face aux Zamalek, et puis le Kara de Brazzaville contre Ben Gerdan de Tunisie, Al-Ittihad de Libye contre Aqua United du Nigeria, Energy Sport du Bénin contre Enimba du Nigeria, le Simba de Tanzanie face à El Masri d'Égypte, Costa do Sol de Mozambique contre Cape Town City, enfin le Djoliba du Mali face à la PR du Rwanda.
Et pour finir, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Porté par les 25 points de Chris Paul et les 23 de James Harden, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur le Thunder d'Oklahoma City, une victoire 122-112. À Oakland, les Warriors de Stephen Curry ont battu Brooklyn 114-101. Enfin, Toronto, vainqueur d'Atlanta 106-90.
Et c'est la fin de la page sport. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'Union européenne promet de riposter à la mesure annoncée par le président américain Donald Trump, la mesure d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium. Pour connaître les mesures de rétorsion possibles contre Washington, Eric Maniarakis a joint à Paris la directrice adjointe de l'IRIS et spécialiste de l'économie internationale, Sylvie Matelli.
Les mesures de rétorsion européennes vont être plus des mesures symboliques. L'Union européenne ou la Commission européenne n'est pas du tout sur une logique de guerre commerciale. Donc bien évidemment, ils vont réagir sans pour autant rentrer dans une escalade. Et ça a toujours été comme ça par le passé. C'est pas la première fois qu'un président des États-Unis veut mettre en place des barrières tarifaires à l'encontre de produits européens.
La balance commerciale est-elle déséquilibrée?
Les Européens exportent beaucoup plus aux États-Unis qu'ils n'importent des États-Unis. Donc ça, c'est important pour quand même comprendre à un moment donné que les Européens n'ont pas du tout intérêt à ce que le commerce entre les deux rives de l'Atlantique en soit réduit. Chaque année, les Européens gagnent à peu près 180 milliards d'euros dans leur commerce avec les États-Unis.
L'accès au marché européen est-il libre aux Américains?
L'accès au marché européen est un accès relativement libre et relativement facile. Il n'y a pas de barrière en tant que telle. Les Européens ont construit un marché commun, les biens, les services, les capitaux, les personnes peuvent circuler totalement librement. Ça crée bien évidemment une distorsion de concurrence assez faible, mais qui existe malgré tout pour les entreprises américaines. C'est problématique pour les entreprises américaines parce que quand elles veulent accéder à ce marché commun, elles doivent remplir des formalités de douane, elles doivent passer une frontière qui de fait existe parce que les États-Unis ne sont pas dans l'Union européenne. Il y avait le TIPP, ce fameux traité qui devait finalement conduire à rapprocher les États-Unis de l'Europe pour que les entreprises américaines profitent mieux de ce marché commun. Le président Trump lui-même y a renoncé.
Le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross affirmait que Washington ne cherche pas une guerre commerciale. Pensez-vous que la riposte européenne ferait peur?
Les États-Unis, même s'ils enregistrent un déficit commercial avec l'Europe, leurs entreprises sont extrêmement intégrées avec les entreprises européennes. Il y a beaucoup de relations d'affaires. Et contrairement à ce que semble croire le président Trump, de la même manière, c'est pas parce qu'on va arrêter ou freiner les échanges qu'on va réduire le déficit commercial et qu'on va avantager l'économie américaine.
Donald Trump veut réduire un déficit annuel de 800 milliards de dollars. Va-t-il en tirer profit?
C'est pas par les tarifs et par les droits de douane qu'on s'attaque à ces raisons. C'est qu'au fond, on ne va pas chercher le cœur du problème et donc on ne donne pas des solutions qui répondent à ce problème. Donc dans un contexte normal, avec un président des États-Unis qui comprend les rapports de force, les enjeux économiques et commerciaux, ça réduira pas forcément le déficit, ça risque même de le creuser et ça risque en plus de ralentir la croissance économique aux États-Unis.
Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS et spécialiste de l'économie internationale.
Bonjour à tous, ici Ekia Badou. Je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. De nombreux pays ont recours à des forces d'autodéfense pour se protéger. Que pensez-vous des groupes d'autodéfense? Estimez-vous qu'ils sont une alternative fiable? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Au Niger, les enseignants de l'université de Niamey sont en grève illimitée depuis 3 semaines. Ils protestent contre l'agression d'un de leurs camarades. Le syndicat des enseignants-chercheurs conditionne la reprise des cours par l'exclusion des agresseurs et les étudiants ont assigné le mouvement de grève en justice en début de semaine. Le point avec le correspondant de VOA Afrique, Abdulrazak Idrissa.
Les faits remontent au 7 février dernier. Comme chaque soir, au départ des bus de transport d'étudiants, la commission des affaires sociales et de l'ordre, la CASO, bloque le passage pour quelques minutes. Ce jour-là, un enseignant voulant rejoindre son bureau se présenta à elle. Il lui est demandé d'attendre comme tous les autres usagers, ce qu'il refusa en forçant le barrage selon les étudiants. Il est poursuivi à son bureau par des éléments de la CASO. Il aura la vie sauve avec l'intervention de certains de ses collègues selon le syndicat des enseignants qui se réunira deux jours plus tard pour annoncer sa décision d'aller en grève illimitée si ses revendications ne sont pas satisfaites. Kabir Maman, secrétaire général du syndicat des enseignants.
La dissolution de la commission des affaires sociales et de leur CASO et l'interdiction de la création de toute structure similaire par des étudiants. L'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abomouni des étudiants identifiés comme responsables de l'agression exige du recteur de l'université Abomouni, conformément aux franchises universitaires, de prendre des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Enfin, exige l'exclusion des étudiants des instances délibératives de l'université Abomouni.
Ces revendications, les étudiants et beaucoup dans l'opinion les trouvent exagérées. La structure des étudiants va tout de même tenter de négocier avec les enseignants. Sita Diabiri, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Imaginez que nous sommes partis vers ces enseignants chercheurs dans un esprit de pouvoir dialoguer avec eux afin de trouver une solution et que c'est le SNEF qui nous tourne les dos. Et bizarrement, c'est ils décrivent qu'ils sont disponibles à pouvoir dialoguer avec les étudiants et avec les différents partenaires. Mais quand on part vers eux, ils nous repoussent. Ça veut dire que ça a été juste une action pour pouvoir charmer l'opinion, de dire que eux, en tant qu'enseignants, ils sont disposés à pouvoir dialoguer avec nous. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Mais ils ont estimé qu'il y a eu une altercation en tant que petits frères, en tant qu'enfants que nous sommes. Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas encore de quoi persister dans cette grève-là parce que déjà ils ont transformé cette université en un mouroir académique.
Là, de toutes les tentatives d'un règlement à l'amiable du problème, la structure des étudiants a saisi la justice pour qu'elle déclare la grève des enseignants illégale. La décision du juge est attendue le 13 mars prochain. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue sa première visite en Afrique avec pour escale le Tchad, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. L'occasion de faire le point sur la politique africaine de l'administration Trump. Lutte contre le terrorisme, promotion de la paix, sécurité, bonne gouvernance, commerce, investissement. Quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique ? Le nouveau locataire de la Maison Blanche va-t-il continuer la politique mise en place par ses prédécesseurs ? L'isolationnisme prôné par la Maison Blanche pourrait-il nuire aux relations entre les États-Unis et l'Afrique ? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guériac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA.
Le Burundi dans le viseur des Nations Unies. L'ONU accuse la Commission burundaise des droits de l'homme d'impartialité et de minimiser les violations des droits de l'homme dans le pays. Accusation rejetée par cette commission qui vient de perdre son statut A. Toute chose qui pourrait se traduire par la suspension des aides extérieures qui faisaient vivre cette institution jusqu'ici. Pour en parler, John Lyndon, adjoint à Bujumbura, Jean-Baptiste Barry Bonnet Kereza de la Commission burundaise des droits de l'homme.
Tout d'abord pour indiquer qu'on n'a toujours pas reçu la confirmation en fait de l'intérimat de cette décision et donc dans le cas actuel, la proposition en fait vise à rétrograder la CNDH du statut A au statut B.
Plusieurs organisations de la société civile au Burundi pensent que vous avez fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme dans votre pays. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Notre réponse c'est que en fait à la lecture de nos différents rapports et de nos enquêtes ainsi que de nos actions en tant que par exemple de conseil et d'assistance aux victimes, nous restons évidemment une institution tout à fait indépendante. Et en réalité, quand on compare, si vous voulez, nos rapports avec les rapports des ONG, je pense que c'est une démarche en fait qui n'est pas fructueuse, simplement parce qu'il y a certaines organisations, comme par exemple celles qui nous accusent d'impartialité en réalité, qui ont tendance, si vous voulez, à produire des rapports complètement fictifs, qui ne répondent pas à la réalité du terrain et qui contiennent des fausses informations, des exagérations à des fins politiques. Mais nous, évidemment, notre approche, c'est de contribuer en réalité à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans la vérité, n'est-ce pas? Surtout contribuer à l'éclosion de la vérité et de la justice et non pas de servir des intérêts politiques.
Alors, vous parlez des réalités sur le terrain. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette réalité au Burundi, en termes du respect des droits de l'homme?
La situation, pour le moment, est beaucoup meilleure, pour dire le moins. Ça veut dire qu'on a observé, évidemment, un certain nombre de violations au cours des années, n'est-ce pas? Mais nous pensons, au regard de la réalité objective, qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des violations qui sont très alarmantes. Le point que nous voulons faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violations dans le pays. Mais cela veut dire simplement que les violations que nous observons, en fait, nous ressemblent davantage à des incidents isolés, en tout cas dans le contexte actuel, et que, en fait, les préoccupations qui restent, comme la question des réfugiés, par exemple, ou la question de la détention préventive prolongée dans certains cas, ou de la surpopulation carcérale, les problèmes de trafic des êtres humains ou des violences basées sur le genre, en fait, c'est des violations en fait, qui ne sont pas symptomatiques d'une crise. Et je pense que c'est vraiment là le point d'achoppement.
Jean-Baptiste Barry Bonnet-Kereza de la Commission burundaise des droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, déféré au parquet le 7 mars 2017 pour des accusations de détournement de deniers publics, a déjà passé une année en prison. Ses partisans ont profité de cette date pour dénoncer une nouvelle fois la détention de leur leader qui, selon eux, est arbitraire. C'était lors d'un grand rassemblement à Dakar. Le point avec notre correspondant, Sédina Abagué.
Venus d'un peu partout de la capitale sénégalaise, les militants et sympathisants de Khalifa Sall se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de la mairie de Dakar pour marquer la première année de détention de leur leader. Depuis l'incarcération du député maire de la capitale, diverses activités sont organisées par ses camarades de parti pour convaincre les Sénégalais de son innocence. Bassirou Samb est un des coordonnateurs de ces activités de soutien.
C'est des manifestations que nous finançons sur fonds propres, c'est des cotisations, parce que l'objectif c'était quoi? C'est de montrer à la population sénégalaise que Khalifa Ababacar Sall n'a rien à se reprocher. Il n'y a ni détournement, ni escroquerie, ni violation de la réglementation en vigueur. Et cette manifestation a un caractère particulier, parce que pour la première fois, toute la société civile sénégalaise est conviée à cette manifestation. Je considère cette manifestation comme le point de départ d'une lutte qui ne s'arrêtera que lorsque Macky Sall quittera ce pouvoir au soir des élections de 2019.
Bassirou Samb est convaincu que Khalifa Sall est victime de ses ambitions politiques. Pour lui, le pouvoir en place refuse l'adversité et craint d'être battu à la prochaine présidentielle.
C'est une détention qui ne repose sur aucune argumentation juridique. Si ce n'est la volonté du président de la République de se choisir ses adversaires pour les prochaines élections présidentielles. Voilà un an que le député maire de Dakar a été privé de l'ensemble de ses droits les plus élémentaires, un an de séquestration, un an de tentative de musellement et de dénigrement d'un homme qui n'a fait que décliner une ambition pour son pays. C'est pourquoi nous jugeons que la détention de l'honorable député maire de Dakar est non seulement arbitraire, mais c'est une détention qui ne repose sur aucun argument juridique.
Du côté de la mouvance présidentielle, on affirme que ce procès n'a rien de politique. Amadou Nia, responsable du parti au pouvoir et chargé de mission à la présidence, estime que le maire de Dakar n'est pas une menace pour la présidentielle de 2019.
Vous savez, nous sommes dans une démocratie. C'est des faits qui ont été reprochés à Khalifa Sall. Maintenant, c'est à lui de sortir du cadre politique et d'entrer dans le cadre judiciaire pour pouvoir argumenter et puis convaincre les juges. Nous ne sommes ni juges, nous ne mêlons pas de ça. Moi, j'estime que Khalifa Sall n'est pas un adversaire sérieux. On s'est rendu compte qu'au niveau du référendum, il a perdu. Pendant les élections législatives, il a perdu. Toutes les élections qui ont été organisées depuis l'avènement de Macky Sall sont gagnées par Macky Sall. élection locale, élection présidentielle, élection référendaire, élection législative encore une fois. Donc moi, j'estime que Khalifa Sall n'est pas un candidat sérieux. C'est même pas un candidat.
En attendant.
C'était un reportage de notre correspondant Sedina Abagué. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, Dan Crafton à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
VOA Afrique.